Arthur Conan Doyle, L'illustre client, traduction de Carroll. Je n'y vois plus aucun inconvénient, fut la réponse de Sherlock Holmes à l'énième demande d'autorisation que je lui adressais quant à la révélation des détails de l'enquête qui vont suivre. Ce fut ainsi que j'obtins l'autorisation tant désirée de porter à la connaissance du grand public l'un des plus beaux triomphes, en quelque sorte, de toute la carrière de mon ami. Holmes et moi avions tous deux une faiblesse pour le bain turc. C'était en outre dans les vapeurs d'une chambre chaude que mon ami apparaissait le moins défiant, le plus humain. L'on trouvait au niveau supérieur de l'établissement de Northumberland Avenue, que nous fréquentions, un petit renfoncement dans lequel étaient juxtaposés deux bancs côte à côte que nous occupions, mon ami et moi, en cet après-midi du 3 septembre 1902, jour où commence cette histoire. Lui ayant demandé si quelque affaire était en train, pour toute réponse, il me tendit au bout d'un bras long, fin et nerveux, émergeant péniblement des couches dont il était enveloppé, une enveloppe qu'il avait extraite de la poche intérieure de son manteau suspendu auprès de lui. Il se pourrait que ceci soit une plaisanterie. Il se pourrait aussi que ce soit une question de vie ou de mort, me dit-il en me désignant le billet que contenait l'enveloppe. Je ne sais pour l'instant rien de plus que ce que nous apprend ce message. Le billet que contenait l'enveloppe était daté de la veille au soir et émanait du Carlton Club. Je lus ce qui suit. Sir James Dermery présente ses hommages à M. Sherlock Holmes et l'informe qu'il se rendra chez lui dans l'après-midi de demain à 4h30. Sir James se permet d'insister sur le caractère tout autant confidentiel que crucial que revêt l'affaire dont il sera question. Il espère vivement que M. Holmes fera son possible pour se rendre disponible pour l'entretien souhaité et le prie de bien vouloir confirmer dès que possible cette éventualité par téléphone au Carlton Club. Nul besoin de me demander si j'ai confirmé le rendez-vous, Watson, me dit Holmes, alors que je lui rendais la lettre. Savez-vous quelque chose au sujet de ce Demery? Bon, rien d'autre, hormis le fait que son nom est un pseudonyme connu de toute la haute société. Eh bien, je peux pour ma part vous en dire davantage. Il a la réputation de participer à l'arrangement discret des affaires embarrassantes. Vous devez sans doute vous rappeler la teneur des négociations menées avec Sir George Lewis dans le cadre de l'affaire testamentaire d'Hammer Ford. Le nom de Demery incarne la solution diplomatique mondaine par excellence. C'est pourquoi je suis tenté de croire qu'il s'agit là d'une affaire réelle et que notre assistance est véritablement requise. Notre assistance? Oui, si cependant vous y consentez, Watson. Oh, j'en serais honoré. Dans ce cas, vous connaissez l'horaire de notre rendez-vous, 4h30. En attendant, accordons-nous quelques heures de détente. Je résidais alors dans mon propre appartement de Queen Anne Street. Je fus cependant exact au rendez-vous fixé à Baker Street à 4h30. Également exact, le colonel Sir James Demery fut annoncé quelques instants après mon arrivée. Il n'est guère nécessaire de s'attarder sur la description de cet homme, dont la corpulence, l'air honnête, les manières quelque peu précieuses, le visage rasé de près et le timbre de voix velouté étaient bien connus du public mondain. Ses prunelles grises étaient animées d'une bienveillance naturelle, et son naturel débonnaire se lisait sur une bouche joviale. Son couvre-chef de ton clair, sa redingote sombre, son épingle de cravate de perles reluisant sur l'étroite bande de tissu noir satiné, ses guêtres parmes garnissant ses chaussures vernies, tout dans son costume traduisait le soin dont il entourait son style vestimentaire et qu'il avait rendu célèbre dans la haute société. Cet homme imposant à la noblesse majestueuse emplissait la pièce de sa présence. Bien sûr, je m'étais préparé à rencontrer chez vous le docteur Watson, dit-il en me désignant et en m'adressant un signe courtois. Son concours s'avéra fort utile si vous collaborez ensemble dans cette affaire, car l'homme auquel nous nous trouvons confrontés est, monsieur Holmes, des plus violents qui existent et de ceux qui ne reculent devant rien. Jamais le sol européen n'a porté homme plus dangereux. J'ai déjà eu l'occasion d'affronter par le passé quelques individus ayant pu prétendre à ce titre, dit Holmes dans un sourire. Vous ne fumez pas, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous voudrez bien m'excuser d'allumer ma pipe. Si votre homme vous apparaît plus dangereux que ne l'était feu le professeur Moriarty ou que le toujours en vie colonel Sébastien Moran, alors il me semble digne d'être rencontré. Puis-je vous demander son nom? Le nom du baron Gruner évoque-t-il quelque chose dans votre esprit? Vous voulez parler du meurtrier autrichien? Le colonel Demery éclata d'un grand rire et ôta ses gants. Mais pas la moindre information ne vous échappe, monsieur Holmes, merveilleux! Vous l'avez déjà répertorié en tant que meurtrier? Cela fait partie de mon travail de suivre l'actualité du crime sur le continent. Qui donc aurait pu prendre connaissance de l'affaire dans laquelle il s'est trouvé mêlé à Prague et conserver le moindre doute quant à sa culpabilité? Il s'en est fallu d'un point obscur de droit et de la mort suspecte d'un témoin qui ne se retrouve placé sous les verrous. Je suis certain aussi qu'il a procédé à l'assassinat de sa femme par le biais de cet accident simulé du col de Splugen que, si j'en avais été le témoin oculaire, je le savais, parvenu en Angleterre, et avait depuis lors conservé le curieux pressentiment qui me donnerait tôt ou tard du fil à retordre. Bien, alors de quoi le baron Gruner s'est-il rendu coupable cette fois? Je présume qu'il n'est plus question désormais de la tragique mort de son épouse. Non, non, mais c'est d'une chose peut-être plus grave encore. Punir un crime est capital, mais le prévenir est plus crucial encore. Il est terrible, monsieur Holmes, d'assister impuissant à la préparation d'un crime atroce, de le voir se dérouler devant vos yeux et d'en anticiper l'issue fatale, tout en ne pouvant l'empêcher. Existe-t-il torture plus grande pour un esprit humain? J'en doute. Le client en faveur duquel j'intercède a donc votre plus grande sympathie. Je n'avais pas clairement supposé que vous n'étiez qu'un intermédiaire. Qui est le principal intéressé? Monsieur Holmes, je dois vous demander de ne m'adresser aucune question concernant son identité. Il est de la plus haute importance que je puisse continuer de l'assurer de son anonymat dans cette affaire, afin que son respectable nom n'y soit pas mêlé. Bien que ses motivations soient des plus honorables, et ce au plus haut degré, il préfère qu'elles ne soient pas connues. Il va sans dire que vos services seront rémunérés avec la plus grande largesse, et que vous bénéficierez dans cette affaire de la liberté d'entreprendre la plus totale. Peut-être ainsi, devant ces avantageuses conditions, consentirez-vous à ce que le nom de votre client vous reste inconnu? Ah, vous m'en voyez navré, répondit Holmes, mais je ne puis me résoudre à me heurter un mystère à chacune des extrémités de mes enquêtes. Je me vois contraint, Sir James, de décliner votre alléchante proposition. Notre visiteur sembla fortement bouleversé. Sur son visage expressif se lut un profond désappointement. « Vous ne mesurez pas les conséquences de votre refus, monsieur Holmes, dit-il. Vous me placez dans une situation de plus inconfortable vis-à-vis de mon client. Je suis bien sûr que vous auriez la plus grande fierté à lui apporter votre concours si vous connaissiez sa véritable identité. Mais cependant, ma parole d'honneur m'empêche de vous la révéler. » « Me permettez-vous cependant de vous exposer tout ce que mon client m'a permis de porter à votre connaissance au cours de cet entretien ?»« Si vous le souhaitez, mais aussi longtemps que vous comprenez bien que cela n'implique en rien ma future collaboration. Je l'entends bien. En premier lieu, vous avez certainement entendu parler du général de Merville. De Merville, l'homme à la célèbre réputation militaire qui s'est illustré dans le conflit de Crimée. Oh oui, j'ai entendu parler de lui. Il a une fille, mademoiselle Violette de Merville, jeune, riche, belle, accomplie, un beau parti à tout point de vue. C'est cette innocente et adorable jeune fille que nous essayons de sauver des griffes d'un démon. Le baron Grunel exerce donc une quelconque emprise sur elle ? La plus grande emprise à tous les égards, monsieur Holmes, celle de l'amour. Ce bandit est, vous l'avez sans doute entendu dire, un homme des plus séduisants, aux manières empreintes de grâce. Il possède en outre une voix enjôleuse et un charisme empreint de ce romantisme mystérieux qui a tant de pouvoir sur l'esprit d'une femme. On le dit posséder le beau sexe tout entier à sa merci et en faire bon usage. Mais par quel malheureux hasard un tel homme a-t-il pu être admis dans l'entourage de mademoiselle de Merville ? Ils se sont rencontrés au cours d'une croisière à bord d'un yacht sur le Méditerranée. Les participants, bien que scrupuleusement triés sur le volet, l'avaient été selon des critères financiers. Nul doute que les organisateurs ne suspectèrent pas la véritable identité du baron avant qu'il fût embarqué. Le rusé brigand se mit à rechercher la compagnie de la jeune dame, et avec une assiduité telle qu'il parvint à gagner son cœur et son esprit. Affirmer qu'elle l'aimait peu dire, monsieur Holmes, elle est folle de lui, folle jusqu'à l'obsession. Rien sur terre n'existe plus pour elle en dehors de lui. Elle ne peut tolérer la moindre parole désobligeante à son égard. Tout a été tenté pour la détourner de lui, mais sans succès. Pour comble de malheur, elle l'épousera le mois prochain. Elle est majeure et dotée d'une volonté de fer, monsieur Holmes. Aussi nous voyons mal comment nous pourrions empêcher cette tragédie. C'est elle à propos des événements survenus en Autriche ? Oh, le rusé bandit lui a absolument tout conté des scandales passés auxquels son nom a pu se trouver mêlé, mais en assurant qu'il n'en était que l'innocente victime. Elle croit à sa version des faits et ne veut en entendre aucune autre. Bon sang, mais c'est pourtant bien sûr. Vous avez par inadvertance laissé échapper le nom de votre client. Ne s'agirait-il pas par hasard du général de Merville? Notre client s'agita sur sa chaise. Non, au risque de vous décevoir, monsieur Holmes, j'ai bien peur que votre déduction soit erronée. Le général de Merville est un homme brisé. La situation à laquelle est confrontée sa malheureuse fille a emporté tout ce qui restait du courageux soldat, déjà affaibli par les horreurs de la guerre et devenu presque sénile. Il ne saurait être question pour lui de lutter contre un brigand d'une trempe telle que celle de ce baron autrichien. Mon client m'est un ami de longue date, monsieur Holmes, et a le plaisir de connaître le général depuis de nombreuses années, au cours desquelles il a développé un intérêt tout à fait paternel à l'égard de sa fille qu'il a vu grandir. Il ne peut se résoudre à assister impuissant à cette tragédie. Scotland Yard n'interviendra pas. Aussi, est-ce sur sa propre suggestion que je m'adresse à vous aujourd'hui, mais à la condition expresse que son nom ne soit pas cité dans l'affaire qui nous occupe. Je ne doute pas, monsieur Holmes, que vos immenses qualités de déduction vous conduiront inéluctablement à percer l'identité de mon client, mais je vous implore de n'en rien faire, ou tout au moins d'en conserver le secret une fois découvert. Holmes eut un sourire éloquent. Oh, je pense pouvoir être en mesure de vous promettre cela, dit-il. Je dois ajouter que cette affaire réveille en moi le plus grand intérêt et que je suis prêt à vous apporter mon concours. Existe-t-il un moyen par lequel nous pourrons rester régulièrement en contact? Oui, le Carlton Club me garde ma correspondance. Voici cependant un numéro de téléphone en cas d'urgence. Je vous prie de ne le communiquer à personne, le XX31. Holmes ouvrit un calepin sur ses genoux et inscrivit, souriant toujours, le numéro dicté par notre visiteur. Également l'adresse actuelle de résidence du baron, je vous prie. Vernon Lodge, près de Kingston. Une imposante demeure. Notre coquin a fait fortune par le passé, par le biais de spéculations nébuleuses, mais il est riche aujourd'hui, ce qui en fait un adversaire encore plus redoutable. Pensez-vous qu'il soit chez lui à présent? Oui. En dehors de ce que vous m'avez confié, pouvez-vous nous en dire davantage à son propos? Il a un goût prononcé pour tout ce qui a trait au luxe. C'est un amateur de courses hippiques. Il joua quelque temps au polo au sein du club de Hurlingham, mais il en est exclu après que des soupçons aient pesé sur lui à l'issue de la révélation de l'affaire de Prague. Il est bibliophile et collectionneur de tableaux. Il dispose d'aptitudes naturelles pour ce qui a trait à l'art. Il fait référence, si je ne me trompe, dans le domaine de la poterie japonaise aussi. Il est également l'auteur d'une monographie sur le sujet. Une individualité complexe, dit Holmes. Elle se retrouve chez la plupart des grands criminels. L'une de mes anciennes connaissances, Charlie Pace, était un violoniste virtuose. Warren Wright, un non moins grand artiste, et je pourrais en citer bien d'autres. Bien, Sir James, veuillez avoir l'obligeance d'informer votre client que je m'intéresse dès à présent de plus près au baron Grunler. Rien d'autre pour l'instant. Je pose quelques sources d'informations et j'espère qu'elles s'avéreront utiles dans la progression de notre affaire. Après que notre visiteur nous eut quittés, Holmes s'absorba longuement dans ses pensées et sembla en oublier complètement ma présence. Enfin, dans un sursaut, il s'extirpa soudain de sa rêverie. « Eh bien, Watson, que dites-vous de tout cela ?»« Je pense que vous devriez rencontrer en personne la jeune lady elle-même. »« Mais, mon cher Watson, si son pauvre père lui-même n'a pu ébranler sa résolution, comment moi, un parfait étranger, y parviendrais-je ? Si nous devions échouer par ailleurs, je me rangeais complète cependant à votre avis, mais... je crois que nous devons commencer par tenter autre chose. J'espère pouvoir compter sur l'aide de Chinwell Johnson. Je n'ai pas eu l'occasion de mentionner Chinwell Johnson au cours des précédents comptes rendus que j'ai réalisés, et pour cause, la plupart de ceux-ci ayant été retranscrits à partir d'enquêtes relativement récentes menées par mon ami. Johnson lui avait été, durant les premières années de sa carrière, un fort précieux assistant. J'ai cependant le regret de le dire, celui-ci s'était par ailleurs illustré auparavant comme fief et coquin, ce qui lui avait valu par deux fois plusieurs mois d'emprisonnement à Parkhurst. Il fit cependant amende honorable et offrit ses services à Holmes. En tant qu'assistant infiltré dans le milieu criminel londonien, il n'était pas rare qu'il obtînt des informations d'une importance capitale. Si celles-ci avaient été directement rapportées au service de police, nul doute que Johnson eût été rapidement démasqué. Mais les cas dans lesquels intervenait Holmes n'étant jamais que rarement portés à l'attention du grand public et devant les cours du système judiciaire, Janson put poursuivre en toute inquiétude pendant un certain temps ses activités délatrices. Fort de ces deux condamnations, il pénétrait très aisément tous les cercles du banditisme de la capitale. Son sens de l'observation et ses qualités de déduction en faisaient par ailleurs un allié de premier ordre. C'était vers les services de cet homme que Sherlock Holmes envisageait présentement de se tourner. Je fus contraint d'abandonner mon ami pour quelques heures, le temps pour moi de vaquer à de pressantes occupations professionnelles. Je le retrouvai le soir même au Simpsons, assis à une petite table devant une fenêtre et regardant le flot animé et ininterrompu qui s'écoulait de la rue Strand. Il me fit un résumé des événements de la soirée. Johnson est déjà en mission, dit-il. J'espère qu'il fera bonne pêche dans les méandres des bas-fonds londoniens, car c'est bien là, sans le moindre doute, que nous pourrons obtenir les plus précieuses informations concernant notre baron. Mais si la jeune lady se refuse à admettre ce qui est déjà connu par tous, quel espoir avez-vous que de nouvelles révélations aient le moindre impact sur son esprit ? Qui sait, Watson ? Le cœur et l'esprit d'une femme renferment d'insondables secrets pour la compréhension d'un homme. Un crime peut être pardonné quand une offense légère est susceptible de déchaîner les plus violents emportements. Le baron Grüner m'a dit. Vous lui avez parlé ? Oh, c'est vrai. Je ne vous avais pas fait part de mes projets. Vous le savez, Watson, j'aime beaucoup à rencontrer personnellement les principaux suspects de nos enquêtes. Les approcher, les regarder droit devant les, dans les yeux m'aide à déterminer leur dessein. Après avoir donné à Johnson ses instructions, j'ai pris un fiacre et je me suis rendu à Kingston, où je trouvais dans sa demeure le baron. Et celui-ci était d'une humeur des plus aimables. Vous a-t-il reconnu ? Parfaitement, puisque je m'étais fait précéder de ma carte visite. C'est un adversaire redoutable, impassible, à la voix aux tables de velours, qui convainc autant que celle du bandit le plus persuasif. Il est aussi venimeux que le cobra. Il y a du tact en lui. Ce criminel aristocratique vous propose en toute légèreté une tasse de thé, tout en dissimulant derrière son invitation les plus sombres desseins. Oui, oui, je dois dire que je suis flatté d'affronter le baron Hardenberg Grüner. Vous le décrivez aimable. Un chat ronronnant de plaisir à l'approche de sa souris, Watson. L'affabilité de certains comportements est parfois plus préjudiciable que la plus grande violence d'autres. L'accueil aimable du baron à mon encontre en constitue la preuve formelle. Je m'attendais à vous recevoir un jour ou l'autre, monsieur Holmes, m'a-t-il dit. Vous êtes sans nul doute mandaté par le général de Merville afin de tenter d'empêcher mon mariage avec sa fille Violette, n'est-ce pas ? J'acquiesçais. Mon cher, poursuivit-il, vous ne parviendrez qu'à porter atteinte à notre propre réputation en choisissant de vous occuper de cette affaire. Elle n'est pas de celles dans lesquelles vous pouvez réussir. Tous vos efforts ne se verront pas couronnés de succès et vous vous trouverez par ailleurs exposé à des dangers certains. Permettez-moi de vous prier instamment dans votre propre intérêt de ne pas insister. « C'est très curieux, répondis-je. Voilà exactement le conseil que je m'apprêtais à vous donner. Loin de moi l'idée de sous-estimer vos qualités intellectuelles, baron, car le peu que j'ai aperçu de votre personnalité ne saurait les démentir. Mais laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Nul n'évoquera votre passé, ne portera atteinte à votre liberté. Vous serez libre d'aller où bon vous semble, mais si vous persistez dans ce mariage, vous attacherez à vos pas des ennemis implacables qui n'auront de cesse de vous rendre chaque parcelle du sol d'Angleterre impraticable. Le Dieu en vaut-il la chandelle? Vous seriez plus avisé de renoncer à votre mariage imminent. Il vous serait préjudiciable que certains événements de votre passé soient en outre portés à la connaissance de votre jeune fiancée. Les moustaches du baron frémirent, se dressant menaçantes comme les antennes d'un insecte. Il eut un gloussement courtois. « Pardonnez mon amusement, monsieur Holmes, me dit-il, mais il m'est réellement très amusant de vous voir jouer une manche sans avoir une seule carte valable en main. Nul ne serait susceptible de jouer ce jeu mieux que vous, bien sûr, mais votre tentative n'en reste pas moins pathétique. Nul atout dans votre jeu, monsieur Holmes, pas même la plus petite carte en main. C'est ce que vous croyez. Donc c'est ce que je sais. Laissez-moi vous exposer les faits, car mes cartes sont telles que je puis me permettre de les jouer sur table. J'ai été assez heureux pour conquérir le cœur de cette jeune femme, et ce, en dépit du fait que j'ai porté à sa connaissance, avec la plus grande honnêteté, les plus sombres aspects de mon passé. J'ai également pris la peine de l'informer que certaines personnes mal intentionnées, oh, peut-être vous reconnaîtrez-vous parmi elles, ne cesseraient de vouloir détourner son amour par le biais d'incessantes nouvelles, révélations. Alors je lui ai suggéré la façon dont elle devrait traiter ces personnes. Peut-être l'impact des suggestions post-hypnotiques a-t-il été porté à votre connaissance, monsieur Holmes? Dans le cas contraire, vous pourrez en juger par vous-même quand vous rencontrerez ma fiancée. Savez-vous que certaines individualités n'ont nul besoin pour exercer sur d'autres ce talent d'avoir recours à divers stratagèmes d'endormissement ou de tromperie? Je ne doute pas que Violette se montre disposée à vous recevoir si telle est la volonté de son père. Elle lui obéit absolument, excepté concernant un seul infime détail, lequel concerne le choix d'un époux. N'y avait Watson rien de plus à ajouter, aussi pris-je congé de mon hôte le plus dignement qu'il me fut possible. Mais alors que je m'apprêtais à tourner la poignée de la porte, celui-ci m'apostropha à nouveau. « À propos, monsieur Holmes, me dit-il, le nom de Le Borin, agent français, évoque-t-il quelque chose dans votre esprit? Oui, qu'est-ce-je? Avez-vous eu vent de ce qui lui est dernièrement arrivé? J'ai entendu dire qu'il avait été sauvagement attaqué par des apaches dans le quartier parisien Montmartre et qu'il n'était pas sorti indemne de cet événement. Exact, à peu de choses près, monsieur Holmes. Par une curieuse coïncidence, il se trouve qu'il s'était avisé une semaine à peine auparavant de fouiner dans une quelconque affaire me concernant. Ne suivez pas son exemple, monsieur Holmes. Imiter Le Brun est une chose que je vous déconseille vivement. Plusieurs ne sont plus là pour en témoigner. Voici mon dernier mot. Vaquez à vos occupations et laissez-moi vaquer aux miennes. Sur ce, je vous souhaite le bonjour, monsieur Holmes. Voilà tout, Watson. Vous connaissez à présent la teneur exacte de notre premier entretien. Le coquin semble des plus dangereux. Il est en effet extrêmement dangereux, Watson. Je fais d'ordinaire peu de cas de ce type d'individu bravache, mais celui-ci ne me semble pas exagérer ses menaces. Songez-vous réellement à le défier, car enfin, serait-ce si grave qu'il épousa la jeune fille? En prenant en compte le fait qu'il a certainement assassiné sa précédente épouse, je crois en effet que cela pourrait s'avérer être grave. Et puis n'oublions pas notre promesse faite à notre client. Nous ne reviendrons pas sur notre parole, Watson. Nul besoin de discuter sur ce point. Je vous propose de terminer votre café et de m'accompagner à Baker Street, où Chinwell doit d'ores et déjà nous attendre pour nous faire son rapport. Nous trouvâmes effectivement, dès notre arrivée, un homme à la stature imposante, à la mine rougeaude, aux petits yeux noirs et vifs, qui traduisait seul dans toute l'apparence de l'individu sa vivacité d'esprit. Il semblait tout droit revenir des bas-fonds qui constituaient son domaine ordinaire et semblait avoir apporté pour preuve de ce voyage la créature qui se tenait présentement à ses côtés sur le sofa, une femme maigre au visage pâle et à la chevelure couleur de feu, jeune mais ravagée déjà par la vie, à en croire les marques du profond malheur qu'elle portait sur le visage et qui témoignait des années terribles qu'elle semblait avoir vécues. « Laissez-moi vous présenter Miss Kitty Winter, » dit Chinwell Jameson en accompagnant sa présentation d'un geste de la main. « Ce qu'elle sait, oh, et puis elle vous le dira bien elle-même. Je l'ai attrapée environ une heure après avoir pris connaissance de votre message, Monsieur Holmes. » « Je ne suis pas bien difficile à trouver, » dit la jeune femme. « Les âmes de l'enfer, tout aussi bien que celles de Londres d'ailleurs, peuvent me trouver à tout moment. Même topo pour Porky Chinwell. De vieilles connaissances, Porky et moi. Mais par l'enfer, il y en a justement un autre qui mériterait de se trouver dans un enfer bien pire que le mien, s'il en existe un. Si dans ce monde délabré régnait la même de justice, c'est de l'homme que vous surveillez dont je parle, Monsieur Holmes. » Holmes sourit. Je vous sais gré de vos bons voeux de réussite dans mon entreprise, Miss Winter. Peu si je puis vous être d'une quelconque utilité pour faire en sorte qu'il s'en retourne brûler en enfer, je suis des vôtres. Clama notre visiteuse dans un élan d'énergie farouche. Une lueur de haine féroce s'alluma dans son regard et les traits de son visage blanc se durcirent implacablement. Nul besoin d'aller fouiner dans mon passé, Monsieur Holmes. Aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Je suis aujourd'hui ce qu'Aldemer Gruner a fait de moi. Oh, si je pouvais me venger! Elle tordit nerveusement ses mains et les brandit soudain en l'air. « Oh, si je pouvais lui rendre le mal qu'il a fait à moi et à tant d'autres !»« Savez-vous de quoi il retourne dans notre affaire ?»« Oui, Parker chez moi m'a mis au courant. »« Il en a après une pauvre fille qui veut épouser cette fois. »« Vous voulez empêcher ce mariage, eh bien ?» Vous en savez sûrement assez pour perdre ce démon dans l'esprit de toute fille raisonnable et sensée. Mal Hicks et qu'elle n'est justement plus ni raisonnable ni sensée. Elle était perdument amoureuse de lui et ne veut rien entendre. Vous avez parlé du meurtre?
Oui.
Oh mon Dieu, mais doit être du trempe. Oui, elle croit que ce ne sont là que pures calomnies. Pas de preuves à jeter au nez de cet idiote imbécile? Non, à moins que vous ne m'en fournissiez. Je suis une preuve à moi toute seule. Attendez un peu que me tienne devant elle et que je lui conte comment ce misérable m'a utilisé. Vous feriez cela? « Si je le ferais, et comment ?»« Bien, cela vaut sans doute la peine d'être essayé. » Mais le baron lui a conté la plupart des événements auxquels son nom a été mêlé par le passé. Elle ne témoigne pas la moindre méfiance à son égard. Je m'attends à ce qu'elle ne daigne pas réouvrir d'autres anciens dossiers. Parlons qu'il lui a pas tout raconté, ricana Miss Winter. J'ai entendu parler d'un ou deux autres meurtres, outre celui pour lequel on l'a déjà accusé. Il me parlait, des fois, comme avec distraction, de sa voix de velours, d'un tel, et ajoutait « Il est mort il y a un mois. » Ses paroles n'étaient pas qu'en l'air. J'y prenais alors pas la moindre attention. Je l'aimais, voyez-vous. Je m'accommodais du moindre de ses agissements, tout comme le fait à présent cette pauvre fille qu'il compte épouser. Et quelque chose éveilla cependant un jour mes soupçons. Heureusement, par l'enfer. Et si sa langue empoisonnée et sa voix, qui me susurrait des paroles mensongères, n'était pas intervenu encore en sa faveur cette nuit-là, je l'aurais quitté pour de bon cette fois. Il y a un petit calepin qu'il conserve, un calepin à couverture de cuir brun, avec ses armoiries couleur or gravées sur la tranche. Je suppose qu'il avait un peu bu cette nuit-là, autrement il ne serait jamais avisé de me le montrer. Et que referme ce calepin ? Sa collection, monsieur Holmes. Cet homme collectionne les femmes, les épingle tout comme d'autres épinglent les papillons, et il en tire la plus grande fierté. Elles sont toutes recensées dans ce petit volume. Clichés, noms, détails, tout y est. Un vrai tableau de chasse, oh, qui fait froid dans le dos, que même l'homme le plus vil du monde aurait bien eu de la peine à imaginer. Mais voilà la fierté d'Adelbert Gruner. Elle tient tout entière dans ce calepin horrible. Les âmes que j'ai ruinées. Voilà bien ce qu'il aurait pu écrire sur la couverture. Quoi qu'il en soit, ceci ne fera pas votre affaire, puisque vous ne pourrez pas vous servir du calepin. Et pour cause, il est bien caché. Et où se trouve-t-il ? Ben, comment pourrais-je le savoir maintenant ? Voilà plus d'un an que j'ai quitté Adelbert. Je me rappelle pourtant où il le rangeait alors. Et comme c'est un homme méticuleux et maniaque, je suppose qu'il le range toujours aujourd'hui au même endroit, dans un tiroir de son meuble, de son deuxième bureau. Vous êtes déjà allé chez lui ? Oui, et je suis même entré dans son bureau, dit Holmes. Ah bon ? Eh bien, vous êtes allé vite en besogne, si vous n'avez commencé que ce matin. Il semble que ce cher Adelbert ait enfin trouvé un adversaire à sa taille. Le bureau dans lequel vous a reçu, il vous a reçu certainement celui qui est dégoré de plusieurs poteries chinoises exposées dans une grande vitrine entre deux fenêtres. Mais derrière son meuble de bureau, il y a une porte qui ouvre sur une petite pièce, son bureau personnel, dans lequel il entrepose ses documents et petites affaires privées. Il ne craint pas les voleurs. Oh, Adelbert est loin d'être peureux. Personne n'en a jusqu'à présent pu dire ça de lui. Il est certainement capable de veiller sur lui-même. Il y a une alarme qui fonctionne la nuit, quand même. De toute façon, qu'est-ce qui dans sa maison pourrait bien intéresser un voleur ? C'est un bibelot chinois. Aucun intérêt, trancha Chinwell Johnson d'un air d'autorité. Personne ne voudrait s'embarrasser d'un truc que l'on ne peut ni fondre ni revendre. Tout à fait exact, dit Holmes. Bien, bien, Miss Winter, si vous voulez avoir l'obligeance de prendre un nouveau contact avec nous demain à 5 heures, je vous instruirai de l'éventuelle possibilité de rencontrer cette jeune fille. Je vous suis très obligé de votre coopération. Je n'ai pas besoin de vous préciser que mon client se montrera reconnaissant de votre précieux concours et le récompensera par les libéralités qui conviennent. Oh, pas de ça avec moi, monsieur Holmes, interrompit avec force la jeune femme. Je fais pas ça pour l'argent. Mon seul but est de voir cet homme traîner dans la boue, et je m'y emploierai de toutes mes forces. Si l'occasion m'en est donnée, je lui piétinerai le visage encore. Voilà tout ce que je veux. Je suis des vôtres aussi bien demain que plus tard, aussi longtemps que vous en aurez après lui. Pas qui, ici présent, saura toujours où me trouver. Je ne revis pas Holmes avant le soir du jour suivant, lorsque nous retrouvâmes une nouvelle fois pour dîner dans notre restaurant de la rue Strand. Il commença par hausser les épaules lorsque je l'interrogeais sur l'issue de son entrevue avec la jeune fille. Puis il me raconta ce que je soumets au lecteur en des termes choisis. « Je n'ai aucune difficulté à obtenir l'entretien, » dit Holmes, « car la jeune fille met un point d'honneur à obéir dans ses moindres désirs à son père pour ce qu'elle considère comme secondaire, afin de se faire pardonner sa désobéissance quant à ses fiançailles. Le général a téléphoné pour dire que tout était organisé. La féroce Miss W. me rejoignit à l'heure convenue à Baker Street, et nous montâmes tous deux dans un fiacre qui nous déposa devant la résidence de l'ancien militaire au 104 Berkeley Square. Elle est une de ces vieilles demeures grises, imposantes et décrépites de Londres, toute trop austère même pour servir d'église. Un domestique nous introduisit dans un salon aux rideaux tendus du jaune le plus vif, dans lequel nous attendait la jeune fille, le visage impassible, froid et dur comme la pierre. Mais je ne saurais comment vous la décrire, Watson. Peut-être aurez-vous le plaisir prochain de la rencontrer, et vous userez alors de vos propres mots. Elle est d'une grande beauté, mais de ces beautés éthérées que l'on trouve parfois parmi les extatiques. J'ai déjà vu des visages aux expressions semblables dans les représentations de certaines dames du Moyen-Âge. Comment un tel homme a-t-il pu réussir à approcher un tel symbole de pureté? Je l'ignore. Vous avez sans doute remarqué avec quelle force les opposés s'attirent, Watson. Le divin, le terrestre, l'humain, l'animal, la souillure, la vertu. Ben vous ne pourriez en constater meilleure illustration. Miss de Merville connaissait la raison de notre visite, bien entendu. Le bandit n'avait pas perdu une seconde pour tenter de nous perdre dans l'esprit de sa fiancée. La présence de Miss Winter, qui m'accompagnait, sembla l'étonner quelque peu. Elle nous désigna cependant des fauteuils, avec la courtoisie d'une abbesse recevant deux mendiants trépreux. Si le moindre sentiment d'orgueil menace un jour de vous étouffer, Watson, faites donc une visite de courtoisie à Miss Violette de Merville. Celle-ci vous fera reconsidérer votre position. Eh bien, dit-elle d'une voix dont le timbre m'évoqua le souffle du vent sifflant entre les icebergs. Votre nom ne m'est pas inconnu, étranger. Je dois cette visite, je présume, à l'intention que vous avez de perdre dans mon esprit mon fiancé, le baron Gruner. Ce n'est que sur ordre de mon père que je consens à vous recevoir. Aussi, permettez-moi de vous informer que vous perdrez votre temps. Rien de ce que vous pourrez me dire n'aura le plus léger impact sur mes résolutions. J'en étais désolé pour elle, Watson. Je la contemplais de l'air triste, avec lequel j'aurais pu contempler ma propre fille. Je suis peu enclin aux sentiments, vous le savez. Je me sers de mon esprit, non de mon cœur. Mais je l'implorais de toutes mes forces, usant des termes les plus affectueux auxquels je fus susceptible de recourir. Je lui dépeignis la pénible position de cette femme découvrant la nature profonde d'un homme après l'avoir épousé, le sentiment de répulsion qu'elle éprouverait soumise aux caresses de mains tachées de sang et aux baisers des lèvres d'un monstre. Je ne l'épargnais nullement. Je lui décrivis la honte, sa peur, l'agonie, le désespoir qui serait son lot quotidien. Toutes mes paroles les plus éloquentes ne purent amener la moindre réaction sur ce visage qui restait invariablement pâle, ni raviver le moindre éclat de vie dans ce regard lointain et rêveur. Je me remémorais ce que ce brigand m'avait décrit de l'état post-hypnotique. Je ne doutais pas qu'il fût semblable à celui que connaissait la jeune fille qui se trouvait présentement en face de moi, rêveuse, semblant se trouver au-delà du monde et de toute sensation terrestre. Et cependant, les paroles qu'elle m'adressait n'étaient pas celles d'une insensée. « Je vous ai écouté patiemment, Monsieur Holmes, me dit-elle. L'effet de vos paroles sur mon esprit est tel que je vous l'avais prédit. Je suis prévenu que mon fiancé Adelbert a traversé quelques moments difficiles avant de me connaître. Il a, par le passé, été injustement calomnié et accusé. Vous êtes les derniers accusateurs en date d'une longue série que j'ai déjà eu à y conduire. Peut-être vos intentions sont-elles honorables, quoique j'en doute, étant donné que vous êtes payé pour accomplir votre travail à ce que m'a révélé mon fiancé. Vous auriez sans doute pu souscrire également à ses ordres moyennement rémunération. Dans tous les cas, je vous prie de considérer pour la dernière fois notre amour réciproque, et quand bien même le monde entier nous désapprouverait, sachez que cela n'aurait pas plus d'effet sur ma résolution que n'en aurait celui d'un gazouillis d'oiseaux derrière la croisée de mes fenêtres fermées. Si la vertu de mon fiancé a jamais failli, peut-être suis-je celle qui le pardonnera et l'élèvera. Mais vous ne m'avez pas encore présenté madame, ajouta-t-elle en tournant son regard vers Miss Winter. Celle-ci eut un sursaut furieux qui prévint la réponse que je m'apprêtais à donner. Si le feu et la glace se sont jamais affrontés, Watson, c'est bien dans l'assaut que porta soudain Miss Winter à Miss de Merville. Je m'en vais vous dire qui je suis, pria Miss Winter d'une voix retentissante, la bouche tordue par un sentiment de fureur incontrôlée. Je suis la dernière en date. Je suis l'une des 100 qu'il a utilisées, ruinées, puis jetées au vent. Voilà ce qui va vous arriver. Ce rebut que vous refusez de voir vous conduira tout droit à la tombe, et peut-être que cela sera pour le mieux. Je vous le dis, pauvre folle, si vous l'épousez, ça en sera fait de vous. Il vous brisera le cœur ou le cou. Ce sera l'un des deux, soyez-en sûr. Ce n'est pas pour vous sauver la vie que je parle, je m'en moque pas mal. C'est par haine de lui et par désir de vengeance, et parce que j'aimerais pouvoir lui rendre, ne serait-ce qu'un peu, du mal qu'il m'a fait. Mais peu importe ce qui me motive, la finalité reste la même. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme vous le faites, ma chère, car vous pourriez bien vous retrouver dans une situation pire que la mienne avant même que vous ayez compris ce qui vous arrive. Je préfère ne pas relever, dit Miss de Merville froidement. Je réaffirme une fois pour toutes que je suis instruite des 3 événements malheureux auxquels mon fiancé a été mêlé par le passé, au cours desquels il a été conspué par 3 intrigantes, et je suis assuré de son repentir quant aux erreurs qu'il aurait pu commettre. 3 épisodes ! Hurla Miss Winter. Pauvre folle, mais vous méritez amplement ce qui va vous arriver. Monsieur Holmes, je vous prie de daigner mettre un terme à cette entrevue, dit la voix glacée. J'ai accédé à la requête de mon père en vous recevant. Je ne vous tolérerai pas plus longtemps les insinuations délirantes de cette femme. Miss Winter s'élança dans un juron sur Miss de Merville, et si je ne m'étais interposé, elle lui aurait sauté au visage. Je l'entraînai vers la porte et réussis cependant à la faire monter dans un fiacre sans autre incident. D'une manière moins démonstrative, mais j'étais moi-même furieux, Watson, car quelque chose dans l'indifférence et l'arrogance de cette jeune fille que nous essayions désespérément de sauver portait singulièrement sur les nerfs. Eh bien, vous voilà à nouveau au fait des événements, Watson. Il me faut à présent penser à trouver autre chose, car pour l'instant, nos ruses n'ont abouti à aucun résultat. Je resterai en contact avec vous, Watson, car il est plus que probable que vous aurez à tenir un rôle important dans la suite des événements. J'espère que nous ne perdrons pas la deuxième manche.